les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Les fêtes de fin d'année approchent, le givre reprend le dessus sur la nature. Et puis nous, on est toujours là pour votre plus grand plaisir et pour assouvir votre soif de savoir. Nous sommes le 15 décembre et pour la dernière fois de l'année, j'ai encore une fois le plaisir d'être accompagnée par notre deuxième jardinière bien-aimée. C'est Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Le mois de décembre s'étend rapidement, on ne voit plus les jours passer. Surtout qu'en plus, ils deviennent très courts, mais malgré l'obscurité matinale, il est là, il est présent et il est en forme, notre jardinier du jour. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste à Porrentruy, vous êtes là ce matin pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs, des questions qu'ils peuvent poser par plusieurs moyens, il me semble, Sophie.
Tout à fait. Vous pouvez nous contacter par écrit ou par oral. Pour la version écrite, vous avez le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet ou alors le SMS. Vous écrivez le mot jardin, puis vous laissez un espace avant de taper votre question et vous envoyez le tout au 939. Sinon, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'opportunité de discuter directement avec Fabrice pour avoir la réponse qui vous convient. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à détailler votre question pour avoir une réponse des plus adaptées.
Eh bien, je crois que tout est dit, hein, on se lance pour la toute dernière fois de 2018 dans le jardin, en compagnie des jardinières.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et la toute première question, elle nous vient de Nicolas de Bienne. Il nous dit la chose suivante. À l'approche des fêtes, je décide pour la première fois de prendre un vrai sapin pour faire plaisir à mes enfants. Comment faire en sorte qu'il reste beau tous ces prochains jours, voire semaines, Fabrice?
Alors, on a des variétés qui tiennent mieux le coup que d'autres. On a le sapin traditionnel qu'on reconnaît dans nos forêts, qui serait peut-être un peu plus fragile. Et on a le sapin normand, qui est un sapin qui se tient un petit peu mieux pour ce conditionnement, cette période des fêtes. Après, pour l'emplacement, il faudrait éviter de le placer peut-être vers une source trop chaude, comme une cheminée, hein, où c'est qu'on a trop de chaleur qui arrive direct dessus. Et puis après, on peut mettre son pied dans un réceptacle d'eau et puis veiller à ce que cette eau soit toujours à disposition du sapin pour qu'il puisse tirer un peu l'énergie qu'il faut pour que ça dure le plus longtemps possible.
Bon, je sais de source sûre, Fabrice, vous me l'avez dit hors antenne, que vous avez un sapin en plastique, vous. Mauvais exemple, en tout cas. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Pour les aiguilles, justement, qui tombent, est-ce que vous avez quand même une petite astuce? Dès que les aiguilles commencent à tomber, normalement, il faudrait virer le sapin, le mettre au compost, par exemple, ou on peut le garder jusqu'à ce qu'il perde la totalité de ses aiguilles.
Bon, normalement, en faisant les choses un peu correctement, on arrive à le retirer jusqu'à début janvier, autour du 6-10, comme la plupart des gens le font. Et puis après, il y a des centres de collecte qui reprennent les sapins dans les communes ou les villes pour effectivement le mettre au compost. Mais je pense que jusqu'à 10 janvier, normalement, en faisant comme ça, on devrait être bon.
Ah, ça va.
On va parler d'autres plantes d'intérieur, enfin qui restent à l'intérieur. C'est Guy qui nous écrit qu'il n'a pas la main verte et pourtant il aimerait avoir quelques plantes d'intérieur. Il demande quelles sont les plantes les plus faciles à entretenir, des plantes qui ne nécessitent pas forcément un arrosage régulier par exemple, parce qu'il lui arrive souvent d'oublier d'arroser ses plantes.
Alors on a quand même pas mal de plantes à disposition. Donc on peut travailler avec, dans les plus classiques, on a les ficus avec les petites feuilles. On a des ficus aussi qui ont des plus grandes feuilles. Ça, c'est des plantes qui sont plutôt érigées. Après, on a des plantes grimpantes qu'on peut utiliser. On a des plantes comme les cactus qui ne sont pas des plantes très demandeuses d'eau, qui ne sont pas très fragiles aussi. Il ne faut pas trop les arroser. Normalement, on les arrose quasi une fois par mois. On a après l'aloe vera, qui est une plante assez atypique aussi, qu'on commence à voir plus régulièrement en ce moment. On a les pieds d'éléphant, qui sont des plantes aussi qui sont en arrosage tous les deux semaines. On a des plantes comme des euphorbes, on a des plantes comme les agaves aussi. On a quand même un grand choix de plantes. Je pense s'il passe chez un revendeur de la région, il se rendra compte très rapidement qu'on a une bonne vingtaine de plantes pour décorer son appartement.
Pour ceux qui n'ont pas forcément la main verte. Et oui, on peut avoir des plantes vertes
sans avoir la main verte. Et après, il y a une méthode de culture peut-être qui est plus facile. C'est peut-être en hydroculture, peut-être pas dans une plante en pot avec de la terre traditionnelle, mais en hydroculture, on a une petite jauge qui permet de voir la quantité d'eau avec un minima, un maxima et puis un optimum. Après, il suffit juste de mettre un petit peu d'engrais, puis le tour est joué. Donc là, c'est vraiment la solution la plus simple.
Donc avec toutes les plantes que vous avez citées, on peut faire en hydroculture?
Oui, exactement.
Fabrice, on vient de recevoir une question de Laura qui nous écrit de Chambre, dans le canton de Vaud. Elle aimerait faire pousser un noyau d'avocat avec son copain. Alors, elle l'a nettoyé, séché et mis, je cite, les fesses dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? Est-ce que vous avez des bons conseils pour mettre toutes les chances de leur côté pour que cet avocat pousse? Et puis, voilà, donc ce sera la question de Laura qui s'arrête là, en fait.
Ben, la méthode la plus classique, alors, c'est effectivement c'est le nettoyer. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend trois cure-dents ou trois allumettes qu'on insère à 1 cm, 1,5 cm de la base de cet avocat, qu'on place à 1-2 cm en dessus de l'eau. On attend que la racine se développe. Une fois que la racine s'est bien développée, il n'y a plus qu'à le mettre en terre. Et puis, l'avocat va commencer gentiment de croître.
Et on peut avoir vraiment des fruits d'avocat?
Alors ça, j'ai jamais eu de retour de personnes qui ont été jusque-là. En général, ça se développe bien jusqu'à une certaine hauteur. Et puis après, ça commence à poser des difficultés. Et on recommence à chaque fois. Mais je connais peu de personnes qui ont réussi à développer justement cette plante au-delà de 1 mètre, 1 mètre 20.
Pour retourner un peu dans le thème des fêtes de Noël, on a une question sur une étoile de Noël. C'est Nicole qui nous demande, par curiosité, je me demandais quel est le nom scientifique de cette plante, donc de l'étoile de Noël, et comment est-ce que je dois l'arroser, l'exposer au soleil ou non. Merci pour vos conseils d'entretien de cette si jolie fleur.
Alors, on l'appelle assez communément le poinsettia ou l'euphorbia pulcherrima. Mais en général, c'est sous l'appellation de poinsettia qu'on va la retrouver dans nos commerces autour de chez nous. Pour, après la mise en place de cette plante dans une source de lumière moyenne à bonne, donc une température aussi standard de nos appartements, avec pas de courant d'air qui vienne dessus, puis l'arrosage doit être aussi d'une façon régulière, pas trop abondant, pour pas que la plante ait les racines en permanence dans l'eau, veille à ce que la soucoupe ne soit pas pleine aussi, qu'on ait un bon drainage donc à ce niveau-là, puis vider la soucoupe s'il y avait trop d'eau en permanence, justement pour pas que ce soit trop humide, et puis c'est une plante avec ces conditions-là réunies qui devrait se développer facilement.
On vient tout juste de recevoir un SMS de la part de Nathalie d'Indervelier. Je vous rappelle que les SMS, vous les envoyez tout simplement au 939 en indiquant le mot « jardin », un espace et votre question. Alors là, Nathalie nous pose cette question. « Cet automne, j'ai cueilli mes coings et en les coupant, j'ai remarqué qu'ils étaient tout bruns. » Alors pourquoi? Et puis finalement, est-ce qu'elle les a peut-être laissés trop longtemps? Est-ce que trop d'eau? Fabrice, vous avez un petit élément de réponse?
Alors, ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû aussi à une mouche qui aurait piqué le coin et le ver qui se serait développé dans le cœur du fruit. Après, pour cette partie-là, pour l'utilisation, ça va pas porter préjudice à l'utilisation de cette plante. Il suffit d'enlever le cœur, justement, du fruit. Et après, le fruit en lui-même n'a pas de goût, n'a pas d'arrière-goût. Donc, elle pourra en faire des gelées, des marmelades ou comme ça. Et puis, pour la conservation, ben, en fin de compte, ça va pas modifier grand-chose non plus. Donc, si elle voit qu'il y a, par contre, dans son encavage de fruits, des fruits qui se gâtent un petit peu, mais ça c'est valable pour tous les fruits, il faut les enlever assez rapidement parce qu'ils peuvent accélérer le processus de maturation sur les autres, ou alors s'il y a de la pourriture, ils peuvent contaminer les autres aussi. Donc juste contrôler au niveau du visuel tous les fruits qu'on a en cave pour garder que les sains.
7h, 8h, les jardinières.
Une question au sujet des baobabs. C'est une question. Nous sommes en mi-décembre et j'ai un baobab rapporté en jeune pousse du Sénégal. Je l'arrose au rythme d'un petit verre par semaine. Il est toujours en feuille. Dois-je cesser l'arrosage afin de respecter son cycle hivernal ou continuer au même rythme? Une question qui n'est pas signée.
Alors pour les plantes d'appartement, en règle générale, du fait qu'ils sont toujours dans les mêmes conditions au niveau température, lumière, juste avec les jours qui se réduisent, on a un arrosage qui est pratiquement identique, voire un petit peu plus espacé. Donc il faudrait regarder un petit peu comme la plante réagit. Je pense que pour ce baobab, c'est pas quand même une plante des plus communes qu'on a dans nos appartements, mais je pense qu'on pourrait l'espacer peut-être d'une semaine, un mois, je pense que ça fait un peu trop long, mais de voir par rapport à la température aussi, l'air ambiant, c'est ça qui va influencer un petit peu le rythme de l'arrosage à 2 ou 15 jours pour ses apports.
C'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'avoir un baobab chez nous.
Ce qu'il y a aussi, c'est que chaque appartement est un petit peu différent aussi par rapport à un autre. Il y en a qui sont plus chauds, donc l'air ambiant qui est plus sec, l'exposition aussi qui peut être soit sud, soit nord. Donc ça va influencer aussi les demandes, le développement des plantes. Et puis c'est des petites choses aussi par rapport à une variété ou à une autre qui peut être aussi directement conséquent et engendrer ces petites modifications.
On vient de recevoir un formulaire qui vient de nos sites internet de Mario de Basse-Cour. Comment se débarrasser des petits moucherons appelés aussi mouches à fruits? Il y en a beaucoup dans les pots de plantes d'appartement. Et il nous souhaite évidemment beaucoup de succès. Voilà, Fabrice, est-ce que vous pouvez aider Mario de Basse-Cour?
Alors, il faudrait déterminer d'où ça vient, parce qu'on a des fois, après des rempotages aussi, des moucherons qui viennent par rapport à une ponte qui se serait effectuée dans les terreaux, qui se développe une fois que les conditions optimums se sont mises en place, c'est-à-dire humidité et chaleur. Donc après, on peut regarder peut-être chez un revendeur pour avoir justement les produits qu'il faut pour gérer ça. Après, on peut, si c'est trop important, peut-être essayer peut-être d'enlever justement un peu du terreau pour le remettre dans un nouveau terrain plus sain, plus propre. Si on avait peut-être un terreau qui n'était pas adéquat au départ. Et puis après, si ce n'est pas à ce niveau-là, si c'est au niveau de la plante, peut-être qu'il y a une attaque d'une mouche qui n'est peut-être pas forcément simplement ce puceron-là, ce moucheron-là, peut-être réagir avec un produit adéquat. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est essayer de prendre un échantillonnage s'il y a des dégâts au niveau des parties aériennes ou souterraines pour voir avec un spécialiste si c'est bien de ça qu'on parle avant que les dégâts soient trop importants.
Est-ce que ça peut se propager aux autres plantes, ce genre de petits moucherons?
Si c'est vraiment le moucheron qu'on a dans les terreaux, en général, on a une envolée et puis après, ça se stoppe dans la plupart des cas. Donc, je dis bien dans la plupart des cas. Après, moi, j'en ai jamais eu ce problème, donc je peux pas dire que ça soit répercuté sur les plantes avoisinantes ou bien que c'est devenu général à un point où c'est qu'il faut tout changer, non.
Et peut y en avoir aussi maintenant, même en hiver. C'est vrai que généralement les moucherons c'est plus.
Mais non, ça je l'ai déjà vu à un petit peu n'importe quel moment. Mm-hmm. Le plus que j'ai déjà constaté quand même, c'est justement après des terreaux des fois de rempotage où c'est que les gens le font sur l'hiver, le printemps ou même en été qu'on a ce phénomène qui se met en place.
Les jardinières.
Deuxième et dernière partie des jardinières, il est 7h37 et vous avez encore jusqu'à 8h pour poser toutes vos questions à Fabrice Rondet. Fabrice Rondet qui est notre spécialiste pour aujourd'hui.
Pour rappel, vos questions, vous pouvez les lui poser directement par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais si malgré sa gentillesse, vous vous sentez trop timide pour prendre la parole de si bon matin, vous pouvez toujours nous mettre un petit SMS au 939 avec le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Ou sinon, il vous reste encore le formulaire trouvable sur nos sites sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Tant de moyens pour trouver réponse à vos questions ce samedi matin.
Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, pensez à bien détailler votre question pour faciliter la compréhension à Fabrice. Et oui, c'est tôt, hein. Puis vous pourrez avoir ainsi une réponse beaucoup plus détaillée qui vous conviendra au mieux.
On a d'ailleurs reçu un SMS pendant la pause musicale, un SMS anonyme, qui nous demande s'il faut arroser à l'amaryllis ou l'amaryllis, je ne sais pas comment prononcer, et si oui, à quelle fréquence?
Alors c'est bien l'amaryllis. L'arrosage, alors c'est comme pour toutes les plantes, il doit être régulier, avec un petit apport d'engrais, parce qu'on a besoin de développer une grande ampe florale avec une jolie floraison qui va durer quand même assez longtemps. Donc cet arrosage, il va se mettre en place jusqu'au moment où c'est qu'il y a la défloraison et où c'est que le feuillage commence de faner. À partir du moment donné que le feuillage il commence de faner, on va stopper l'arrosage, puis on va placer cet amaryllis dans un endroit aéré et frais jusqu'au moment donné où c'est qu'il va redémarrer de nouveau un nouveau feuillage plus tard dans la saison. Tout simplement.
Donc, c'est pas très compliqué, finalement.
C'est une plante très facile, de nouveau. Oui.
On a une question de Malou à présent. Elle aimerait avoir des avis ou des retours d'expérience de la part de jardiniers sur les petites serres de culture, par exemple pour cultiver des tomates, et aussi quel type d'arrosage est le plus approprié. Est-ce que la mise en place de goutteurs est suffisante pour maintenir un sol humide en plein été? Elle anticipe un petit peu, mais finalement, pourquoi pas ne penser à l'été? On a déjà tellement froid maintenant. On prend un petit coup de chaud avec ces tomates, Fabrice.
C'est fort sympathique. Alors, pour les tomates, moi, je dirais par expérience, ce qui est bien, c'est d'avoir une serre qui fait à peu près 1,80 m de hauteur pour qu'on puisse s'y déplacer assez facilement. Pour les tomates, si elles se développent bien aussi, qu'elles atteignent une certaine hauteur aussi assez aisément, sauf qu'on doit les tailler fortement ou les réduire au niveau de la hauteur. Donc 1,80 m, c'est pas trop mal. Après, au niveau des serres, on a des serres qui sont fermées, comme la serre classique qu'on imagine tous. Ou autrement, on a des demi-serres qui sont pas mal intéressantes maintenant, où c'est qu'on peut planter un rang ou deux rangs, tout dépend comment on sait les tailler. Donc si on sait faire une taille, une bonne taille avec un enlèvement des branches latérales qui vont se développer le long du tronc, on peut porter ces serres qui font à peu près 1,20 m de largeur à 1,50 m sur 1,80 m de hauteur pour à peu près 60-70 cm jusqu'à 8 plants. Et puis là, on a une approche de la plante qui est assez aisée. Pour l'arrosage, on va faire un arrosage sans mouiller le feuillage. Ça, c'est le plus important. Donc, on ne mouille pas la plante en elle-même, ni fruits, ni feuilles. Et puis après, il faut que le terrain soit toujours aussi humide. Donc, on peut mettre une bouteille d'eau, la remplir pour que le terrain prenne par capillarité. Ou si on veut installer un petit système d'arrosage par goutte à goutte, avec une ouverture qui peut être soit ouverte manuellement, soit mise en place avec un minuteur. Ça, c'est tout à fait possible aussi.
Ces systèmes de goutte à goutte, ça peut être utile aussi pour les plantes intérieures, par exemple? Ou c'est mieux quand même d'avoir un arrosage fait par un humain?
Alors, à l'intérieur, on va plutôt s'en occuper soi-même. Et puis, en général, ces goutte à goutte, on l'utilise principalement pour tout ce qui est plantation hors sol ou dans le terrain, mais en extérieur, comme typiquement dans des serres ou des pots qui sont posés pour des petites cultures ou pour démarrer une culture.
Sophie, vous êtes là. Est-ce qu'on a encore une question par hasard?
Alors, j'allais répondre à un téléphone.
Prenez le téléphone. Moi, je peux poser la prochaine question parce que je
Exactement.
Crois que nous avons reçu justement une question de Arnaud de Kourou qui nous parle d'oliviers. Alors, il nous dit que les oliviers qu'il a ont attrapé une espèce de gale. Est-ce qu'il existe un traitement? Est-ce que nous devons carrément couper les arbres?
Alors non, en général, ce qu'il faut de nouveau, c'est bien vérifier l'histoire, donc en allant chez un revendeur avec un échantillon peut-être du problème qu'il rencontre. Pardon. Parce qu'on peut avoir plusieurs types de petites choses qui se mettent en place. Donc une gale, ça peut être aussi des choses des fois qui sont une piqûre d'un insecte, où c'est qu'on a l'insecte qui se développe dans l'imbe de la feuille. On peut avoir aussi peut-être une confusion des fois pour certaines personnes avec une petite bestiole qu'on appelle la cochenille qui forme une espèce de petit bouclier qui adhère sur le feuillage, sur les rameaux principalement. On peut avoir aussi des fois des poux lanigères, des cochenilles farineuses. Donc on peut avoir des doutes en parlant comme ça sur 2-3 points différents. Donc en prenant une photo ou en prenant un échantillon, on va pouvoir le renseigner exactement sur ce qu'il s'agit et après l'orienter sur le produit nécessaire pour arriver au bout. Mais je pense qu'il faudrait que l'attaque soit vraiment forte et puis que l'arbre soit en train de sécher pour devoir s'en débarrasser. Mais je ne pense pas qu'il en soit déjà là.
Et là aussi, même question, est-ce que ce genre de maladie, ça peut se propager un petit peu aux plantes qui entourent l'olivier, qui là, apparemment, a attrapé une maladie? Est-ce que c'est bien de faire quelque chose assez rapidement, justement, pour pas que ça se propage?
Alors, s'il s'agissait, par exemple, d'une maladie ou d'un parasite, oui, effectivement, ça peut se propager sur les plantes avoisinantes. Après, on a certaines plantes qui peuvent être plus sensibles, donc avec une augmentation de l'attaque sur le voisinage plus forte, donc ça c'est possible, comme par exemple cette cochenille, ça c'est possible à rencontrer sur plusieurs types de plantes, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, donc effectivement c'est bien de déterminer assez rapidement le problème et réagir par rapport au traitement qu'il faudrait faire.
Merci Fabrice Rondet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et Sophie, donc vous avez eu l'auditeur au téléphone et vous avez une question pour nous.
Oui, c'était Agnès de Bressaucourt qui a un hortensia dont les boutons sèchent et tombent. Elle a dit que son hortensia avait fait 5 tiges, qui avaient fait des boutons, et elle ne sait pas ce qu'elle a fait faux et comment elle peut rattraper le coup.
Alors, si ça sèche et que ça tombe, ça veut probablement dire qu'on a eu un manque peut-être au niveau de l'arrosage. Peut-être que la plante n'avait pas assez de nourriture aussi pour pouvoir développer sa floraison jusqu'au bout. Si c'est une plante qui était à l'intérieur, peut-être qu'elle s'est retrouvée aussi dans des conditions pas adéquates avec, par exemple, un courant d'air, une fenêtre ouverte. Donc, il faudrait déplacer cette plante pour la mettre dans une situation où c'est que la température est plus constante, avec moins d'à-coup sur du chaud-froid. Bref, il faut commencer par régulariser les choses au niveau des apports d'eau, température, luminosité, et puis éventuellement engrais si ça fait de la fleur, si ça fait des fruits, comme par exemple pour des petits agrumes qui vont commencer les floraisons maintenant. On a quand même besoin d'un petit peu d'engrais, peut-être pas aussi, aussi régulier qu'en pleine saison, où c'est qu'on parle d'un apport d'engrais pour des agrumes, par exemple, d'une fois par semaine. On va peut-être passer là à une fois par mois. Mais il y a quand même un apport qui est besoin pendant ce repos hivernal.
Et c'est vrai que vous qui posez vos questions à nos jardiniers, hein, notamment à Fabrice Rondet, si vous voulez nous donner des nouvelles de vos plantes, eh bien vous n'hésitez pas à nous lancer un petit coup de fil, hein, 0900 70 20 20.
7h, 8h, les jardinières.
Encore une question par rapport aux plantes de Noël. Décidément, ce n'est pas parce que c'est bientôt Noël qu'on arrête de prendre soin de ces plantes. C'est Catherine qui nous demande à quel endroit du jardin est-ce qu'elle peut planter sa rose de Noël en pot.
Votre micro, Fabrice, effectivement, c'est beaucoup mieux. Allez-y.
Oui. Ah, voilà, comme ça va bien.
Voilà.
Merci. Excusez-moi. Donc, par rapport à la rose de Noël, là, il y a une petite confusion possible d'après la question comme elle est posée. Une rose de Noël d'extérieur en pot, vous m'avez dit. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans la rose de Noël, on a une appellation qui peut être déjà qui peut concerner deux types de plantes complètement différentes. On a la rose de Noël que les gens aussi appellent le poinsettia, comme on a vu avant, qui se place à l'intérieur dans un endroit standard au niveau de la lumière, de la température, et puis au niveau de l'arrosage, qui est assez facile à conduire. Mais on a aussi la rose de Noël qui est d'extérieur, qui est une éléborus qui va fleurir justement pendant la période hivernale de janvier et février principalement. Et puis là, par contre, c'est une plante qu'on ne va pas élever à l'intérieur. C'est vraiment une plante d'extérieur, c'est une plante vivace. Et puis là, bon, en fait, on peut la rencontrer dans tous nos massifs, un petit peu toute exposition. Donc là, celle-là, elle est en pleine terre et puis directement plantée dans nos massifs. Donc pas en pot, pas à l'intérieur. Mmh. Voilà, alors je ne sais pas de quelle plante parle cette dame, mais alors il faut faire la différence entre l'éléborus, plante vivace d'extérieur, ou alors le poinsettia d'intérieur.
Eh ben, ce qu'on propose, c'est que Catherine nous renvoie, si elle nous écoute, un petit SMS où elle nous appelle au 0900 70 20 20, peut-être pour préciser de quelle rose de Noël il s'agit. C'est vrai qu'en France, c'est la période. Et c'est pas, et après, il y a encore l'étoile de Noël qui n'a rien à voir.
Ben, justement, cette étoile de Noël et puis cette rose de Noël, certaines personnes la dénomment tous les deux. Puis c'est, en fin de compte, on parle plus simplement de poinsettia. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention, bien séparer entre ce poinsettia qui pourrait avoir ces deux appellations, ou alors cet éléborus d'extérieur.
Mmh. Fabrice, on a du succès ce matin. Sophie vient de nous dire qu'elle a quelqu'un en ligne, quelqu'un qui a une question pour vous.
Oui, il y a Françoise Ducle qui est en ligne. Françoise, vous êtes avec nous.
Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour.
Que j'ai mis sur l'extérieur pendant l'été et je l'ai rentré. Quand je l'ai rentré, il a commencé à avoir les feuilles qui viennent jaunes et puis là, il a bientôt quasiment plus de feuilles.
J'ai pas compris quelle plante c'était, madame.
Un ficus.
Ah, un ficus. Donc c'est le ficus avec les petites feuilles, le ficus benjamina.
Les petites feuilles, oui.
Oui. Donc vous l'avez rentré à quel moment à peu près c'était octobre.
Avant le bel bloc. Oui, octobre.
Octobre à peu près. Donc oui. Dedans, vous l'avez mis dans une pièce avec des températures normales de 20-22 degrés.
Exactement.
Et puis quand il était dehors, à ce moment-là, on était dans des températures de combien à peu près par là autour aussi.
On était moins,
Ouais, on était entre 16 et 20, même pas plus bas.
Oui, oui.
Et puis toutes les feuilles ont jauni ou certaines feuilles ont jauni?
Alors, il a bientôt plus de feuilles.
Et puis il est dans une pièce qui est bien éclairée ou moyennement éclairée ?
Il est bien éclairé. Il n'est pas au courant d'air. Il est... Je l'ai hydraté un peu plus parce que du fait qu'il y avait plus de température.
Mais pas trop ? Le terreau est humide ou bien le terreau est réussi, il vient un peu sec.
Je le laisse sécher pour venir après le réhumidifier. Comme je fais chaque année, mais là cette année c'est vraiment spécifique, il a bientôt perdu toutes ses feuilles.
Est-ce que vous n'avez pas constaté peut-être que ce jaunissement des feuilles commençait de se mettre en place avant de le rentrer ? Est-ce qu'il n'a pas commencé de se mettre en place peut-être déjà en octobre ?
Du tout.
C'est un peu surprenant parce que d'après ce que vous me dites au niveau de la conduite de cette plante en intérieur, s'il est dans une température constante, que le terreau n'est pas trop sec, que vous l'arrosez régulièrement, qu'il n'est pas dans un courant d'air, donc toutes les conditions sont bonnes pour lui. Après, il n'y a pas sur les branches justement des petites cochenilles, il n'y a pas de petites bestioles que vous voyez sur le long.
À côté qui fait la même chose.
Il fait la même chose aussi, il commence aussi.
Ouais.
Mais écoutez, sans voir la plante comme ça, c'est assez compliqué parce qu'apparemment vous faites vraiment tout juste au niveau de la culture. Et puis s'il avait eu les pieds dans l'eau, comme on dit, ça pourrait être un problème d'asphyxie de la plante par justement un taux d'humidité au niveau du terreau qui est trop important. Et puis on a les mêmes symptômes qu'une plante qui a soif. Donc, c'est-à-dire que ça commence par un jaunissement des feuilles. Puis après, ce jaunissement des feuilles, il peut être aussi dû à un emplacement pas assez éclairé. Donc, la plante, elle va commencer d'éclaircir son feuillage, de laisser tomber une partie de son feuillage pour pouvoir avoir de la lumière tout partout. Mais si vous n'avez pas tout ça...
Du balcon donc, qui s'ouvre de l'autre côté pour... Donc, il n'est pas dans le courant d'air. C'est quand même une grande baie vitrée. Et il n'a pas le soleil direct dessus.
Non, écoutez, là, je suis vraiment désolé parce que d'après ce que vous me dites, vous faites vraiment tout juste. Donc, on ne devrait pas avoir de problème comme ça qui se mette en place.
Est-ce qu'il faudrait que je le taille une fois ? Jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais taillé. Est-ce que c'est
Pas forcément. Il faut le tailler. Vous savez, pour moi, il est difficile de répondre ça parce que la plante, je ne la vois pas. Je ne sais pas quelle hauteur est là, quel volume est là. Je ne sais pas si elle a un feuillage trop important. Ça veut dire qu'elle va laisser peut-être tomber une partie de son feuillage parce qu'il y a moins de lumière. Les journées étant plus courtes, elle reçoit moins de lumière. Donc, elle peut perdre peut-être un 10-20% de son feuillage pour que toute la plante reçoive de la lumière, pour que toutes les feuilles se développent correctement.
Peut-être 20% de son feuillage, oui.
Ouais, mais normalement, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir une perte de 10-20% pour garder 80%, 90% du feuillage pour que toute la plante reçoive de la lumière jusqu'au cœur de la plante correctement. Mais là, vous êtes en présence de quelque chose. Écoutez, pour moi, on a un problème au niveau soit d'une maladie, soit d'un parasite dessus, parce que cette plante, vous faites juste au niveau de la conduite. Hein. Ce que vous pouvez faire peut-être, c'est laisser... vous m'avez dit que vous l'avez fait ça au niveau de l'arrosage. Laisser ressuyer, laisser sécher un petit peu le terreau. Essayer de lui remettre un petit peu d'engrais peut-être, comme on disait avant, une fois par mois, pour essayer qu'il reprenne un petit peu du peps pour se redévelopper. Regardez si au niveau du terreau, vous n'avez pas... Peut-être des bestioles, essayez de gratter un petit peu pour voir si vous n'avez pas des petits vers dedans ou si vous n'avez pas dans la partie aérienne des cochenilles ou des bestioles comme ça. Ouais, mais non, vous avez quelque chose, c'est pas possible. La plante ne peut pas se mourir comme ça s'il n'y a rien.
Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de peut-être laisser vos coordonnées après à Sophie justement et peut-être qu'on pourra organiser le fait que vous envoyez des photos à Fabrice parce que là, l'heure avance, il faut absolument qu'on se dise au revoir et puis. Il y a encore pas mal de... Alors, vous laissez vos coordonnées à Sophie, puis on va transmettre. D'accord ?
D'accord, c'est gentil.
Merci infiniment d'avoir téléphoné,
merci,
en tout cas.
Au revoir.
Au revoir, belle journée. Au revoir. Ben oui, le temps file, les jardinières se terminent pour la dernière fois de l'année. Et ben oui, à Noël approche, les jardins et les jardiniers méritent eux aussi de se reposer pendant les fêtes. Merci Fabrice Rondet d'avoir fait le déplacement ce matin. Belle journée et surtout, bonne fête.
C'est avec plaisir. Bonne fête à vous aussi. Merci. Au revoir.
Merci Fabrice, merci à vous tous qui avez posé vos questions pour cette dernière émission de l'année. Le jardin va désormais devoir fermer pour l'hiver. Les jardinières reviennent l'année prochaine, le 12 janvier 2019, pour une nouvelle année remplie de conseils et astuces jardinage. En attendant, vous pouvez toujours réécouter les émissions sur nos sites internet. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par formulaire ou par SMS au 939 et nous y répondrons avec joie le 12 janvier. Joyeuse fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine.
Joyeuse fête.
7h, 8h, les jardinières.